put a spell on you.
Le respectable bourgeois s'effarouche déjà quand il entend le terme d'agit-prop. Voilà encore une victime à laquelle les méchants bolcheviques ont coupé les mains et les pieds. Sa peur devient panique quand l'abréviation est complétée et révèle un théâtre qui veut faire de l'agitation et de la propagande. Eh, c'est encore pire que le théâtre politique.
Maxime Valenta, fondateur de la troupe berlinoise Le Porte-Voix Rouge, 1930.
Vous êtes bien sur le théâtre de la Gamelle et vous écoutez une émission de théâtre radiophonique en direct tous les vendredis, animée par la compagnie Les Montures du Temps, avec nous dans le studio Marie-Laure Communal, Florent Fichot et David Bescon.
Bonjour.
Et Anaïs Saint-As, bonjour.
Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, en fait, pour cette première émission sur la question du théâtre de l'agit-prop, on va essayer de dresser un peu un tour d'horizon de qu'est-ce que c'est, ce méchant théâtre de bolcheviques, et un peu aller fouiller pour voir ce mouvement qui a été occulté et dont on ne connaît en fait, à vrai dire, pas grand-chose. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le théâtre d'agit-prop, on peut le situer de 1917 à 1932. Et je vais peut-être déjà directement laisser la parole à, encore une fois, la société... Ah non, rien à voir avec Maxime Valentin, mais c'est la...
C'est le congrès constitutif de la Fédération du Théâtre Ouvrier de France,
ouais.
Qui a écrit donc le 25 janvier 1931, le manifeste du Théâtre Ouvrier.
Parfait.
Voilà, on va dire ça maintenant. Manifeste. La Fédération du Théâtre Ouvrier de France a tenu le 25 janvier 1931 son congrès constitutif avec la collaboration de 50 délégués de groupements artistiques, d'auteurs et littérateurs prolétariens, ainsi que les représentants du théâtre prolétarien d'Alsace-Lorraine, d'Allemagne et de Belgique. La Fédération affirme que le mouvement artistique est lié directement à la lutte des classes et ne peut s'en séparer. La bourgeoisie possède un art... son art, que la Fédération dénonce. Cet art tantôt atteste le degré de dégénérescence de la société capitaliste, tantôt sert aux exploiteurs pour fausser la conscience de classe des ouvriers ou les détourner de l'action révolutionnaire. Il n'y a pas d'art neutre. L'art combat ou sert la cause prolétarienne. La Fédération veut servir le prolétariat. Elle veut coordonner les efforts des groupes artistiques ouvriers, les mettre en contact entre eux et avec les organisations révolutionnaires. Elle veut fournir un contenu révolutionnaire à leur programme et leur découvrir des formes nouvelles d'expression artistique. La fédération n'entend pas adopter exclusivement certaines formes littéraires ou artistiques. Elle acceptera toutes celles qui enrichiront son programme de classe et contribueront à la propagande révolutionnaire. La Fédération du Théâtre Ouvrier adresse son appel à tous les groupes artistiques prolétariens du pays et les invite à la rejoindre pour donner à ses principes une application vivante. Aucun esprit de secte, aucune exclusive. Toutes les organisations artistiques se réclamant de la lutte des classes ont leur place dans ses rangs. Leur intérêt le leur commande. L'intérêt du prolétariat leur en fait un devoir. Contre l'art servile des exploiteurs du nationalisme et de la guerre, pour un art révolutionnaire du prolétariat en lutte, pour une puissante fédération du théâtre ouvrier. Le congrès constitutif de la FTOF.
Donc on comprend avec de telles déclarations, donc ça c'est un manifeste qui a été donc écrit en France en 1931, mais on comprend qu'avec de telles prérogatives en fait pour ce genre de théâtre, il ne nous soit parvenu très peu en fait d'archives et très peu en fait de sources tout simplement sur ce théâtre très particulier qui donc, comme je le disais tout à l'heure, a eu cours en fait de 1917 à 1932. Alors ces deux dates butoirs, 1917 hein, c'est la prise du pouvoir en octobre en Russie. Et puis en 1932, on va dire que c'est le moment où il y a la dégénérescence stalinienne qui commence. On est avant les grands procès de Moscou, etc. Mais déjà, le parti se resserre, en fait, se serre tout simplement de tout ce qui est moyen artistique pour imposer ses vues. Et donc, il y a une conférence qui a eu lieu en 1934. Et ça s'appelle donc la conférence des écrivains soviétiques, je crois. Et où, en fait, l'esthétique réalisme-socialisme avec Jdanov est mis en place. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a Maïakovski, notamment, qui s'est suicidé en 1930, je crois, à peu près, dans ces eaux-là. Il y a eu beaucoup de bruit qui circule à propos de son suicide. Est-ce que c'est des histoires amoureuses? Est-ce que c'est le fait que le pouvoir en place censure continuellement en fait ses écrits et ses dires et puis refusait un peu sa parole qui était libérée de poète?
Moi, je pensais qu'il avait été déçu de la révolution par rapport à son idéal de départ.
Ouais.
Je pensais que c'était surtout pour ça.
Ouais, je pense que c'est un facteur, enfin qu'il y a plusieurs facteurs qui concordent. Parce qu'effectivement, avec la nouvelle économie politique qui est mise en place dès 1921-24, on assiste en Russie non pas à le socialisme rêvé, la collectivisation, etc., mais à une forme de capitalisme où les rapports marchands subsistent et où au final l'économie est au service d'une classe d'apparatchiks au pouvoir. Donc c'est vrai que les artistes ont été largement, enfin ils ont subi de plein fouet en fait le revers de ce qu'ils exaltaient et de l'idéal en fait qu'ils servaient. Ça a été quelque chose d'assez terrible pour eux. Donc on peut donc en tout cas situer tout ce qui était cette spontanéité de l'agitation, de l'agitprop dans cette période-là de 17 à 32. Et quelque chose aussi qui est important, on en parlait en off tout à l'heure, c'était que c'est pas du tout limité en Russie. Ce genre de théâtre, mais ça a traversé vraiment tous les pays jusqu'aux États-Unis. Ça faisait partie d'ailleurs des on va dire des consignes de la Troisième Internationale communiste d'insuffler en fait par le biais de l'art tous les moyens pour que les ouvriers, les travailleurs, les exploités se révoltent contre le système établi, contre l'exploitation, contre la misère, le chômage, la crise, les guerres, etc., etc. Ce que je disais, c'était qu'on n'avait pas beaucoup en fait de sources, pas beaucoup d'archives. Donc, d'une part, c'est parce que donc le stalinisme est passé par là, qu'ils ont relégué le théâtre d'agitprop aux oubliettes. D'autre part, parce que la gauche, on va dire occidentale, peu, enfin, s'est méfié de ce genre de théâtre spontané, ou qui laissait beaucoup de place aux amateurs, qui laissait beaucoup de place aux personnes qui n'étaient pas forcément dans la ligne officielle et qui du coup propageaient des idées. Et donc du coup, l'ont souvent taxé de gauchisme en s'en désintéressant. Et enfin, si on parle après de la culture bourgeoise, la culture officielle, c'est évident que il n'y a pas beaucoup de. Enfin, c'est encore plus évident qu'on n'a pas de, on n'a pas de source et on connaît très peu de choses dessus, puisque les circuits d'archives, les circuits de sources d'informations sont souvent les mêmes que les circuits de pouvoir. Et donc, ce qui parvient jusqu'à nous, bien souvent, passe à la trappe. Et enfin, il y a un autre aspect qu'il faut prendre en compte, c'est que c'était surtout un théâtre de la parole, un théâtre oralisé. Un théâtre qui était anti-littéraire en plus par essence même. Et donc du coup, on a très peu d'écrits, puisque c'est des petites troupes qui se montaient dans les usines, dans les bars, dans les cafés, dans les restaurants, et qui, par essence, écrivaient pas ce qu'ils... Voilà, donc pour faire un petit tour d'horizon du théâtre d'Agile Propre, on peut citer qu'en France, il y avait un groupe qui s'appelait La Scène Ouvrière. Donc on va lire à la fin de cette émission une des pièces qu'ils ont jouées. En URSS, c'est là où le développement du théâtre d'agitprop fut le plus considérable. Donc notamment, il y avait la troupe qui s'appelait la Blouse Bleue, mais il y avait aussi le Tram. Alors c'est rigolo, le Tram, en fait, c'est une troupe d'agitprop qui parcourait la ville à bord d'un tramway. Mais il y avait aussi des bateaux d'agitation. Il y avait aussi un train qui parcourait toute la Russie, avec dans chaque wagon un orchestre, des musiciens, des théâtres, des costumiers. Enfin, c'était un train qui sillonnait le pays entier pour en fait aller jouer partout, quoi. En Allemagne, il y avait pas mal de... Enfin, on a recueilli pas mal d'informations parce qu'il y a un recueil, une anthologie qui a été... qui est sorti, donc c'est de Ludwig Hoffmann et Daniel Hoffmann Oswald, donc pour ceux que ça intéresse. Mais il y avait aussi donc du théâtre d'agitprop en Pologne, puisque avant la liquidation du parti communiste qui a eu lieu en 1938 par Moscou, il y avait de nombreux poètes communistes qui animaient le mouvement littéraire, artistique, voilà. Et puis en Roumanie et aux États-Unis, il y a beaucoup de traces qui ont subsisté jusqu'à nous. Donc, je vous recommande la lecture de recueils en fait Théâtre Année 20, et qui du coup en fait c'est là où nous on a puisé nos sources pour construire cette émission aujourd'hui.
C'est aux éditions de l'Âge d'Homme.
Ouais.
La Cité.
Mais avant d'aller peut-être plus avant dans qu'est-ce que c'était ce théâtre d'agitprop ? Je vous propose de faire tout de suite une petite pause pour écouter du Shostakovich, et notamment ses symphonies qu'il a composées pour la Révolution d'Octobre. Et donc, une qui s'appelle Poco meno mosso.
Thank you.
Le théâtre d'agitprop. Théâtre pauvre, simple instrument au service du parti, de la cause. Et s'il y avait là, au contraire, l'amorce d'une subversion peu ordinaire, l'amorce d'une révolution, tant de la culture par la politique que de la politique par la culture. Les masses s'ouvrent au théâtre parce que le théâtre s'ouvre aux masses. Non seulement dans ses contenus, mais aussi dans ses formes. Non seulement dans ses formes, mais aussi dans ses fonctions. Non seulement dans ses fonctions, mais aussi dans ses modes de production et de distribution. N'est-ce pas la raison pour laquelle cet héritage des années 1917-1932 est quasiment passé à la trappe, comme si on avait voulu étouffer une promesse gênante?
En fait, on peut faire plusieurs parties dans la période 1917-1932, puisqu'elles ne sont pas vraiment égales dans le temps. Il y a eu beaucoup d'évolutions, même vis-à-vis du théâtre en lui-même, là-dedans. Et on peut constater que vers la fin, en 1930, il y a une union internationale qui va se fonder et qui va un petit peu condenser ce que devrait être, ce que serait le théâtre d'agitation propagande. Donc l'Union internationale du théâtre ouvrier, elle est fondée à l'initiative d'Allemands, de Français, de Tchèques, de Belges, de Russes, et notamment, elle dit ça.
Les troupes d'agitprop offrent la possibilité d'amener de larges couches de travailleurs à collaborer à la rédaction, à l'élaboration artistique et à la représentation de pièces politico-révolutionnaires. Les troupes d'agitprop ont à s'occuper de problèmes politiques actuels. Elles sont extraordinairement élastiques et s'adaptent facilement aux conditions de vie et de travail dans les pays capitalistes. Elles utilisent à leur fin propagandiste l'entreprise, la rue, les places, la salle de brasserie, de café, et se servent pour leur travail de toutes les variétés d'arsenic, revues politiques, déclarations de masse, scènes courtes, etc., etc.
Mais avant donc que se fonde cette Union internationale du théâtre ouvrier, il faut savoir que le début en fait du théâtre d'agitprop, c'est une multitude de formes tout à fait différentes. Et on peut distinguer donc une première partie, 1918-1921.
La spontanéité.
Alors, la spontanéité, c'est vraiment le mot exact pour qualifier cette période, puisque, par exemple, à Leningrad, donc Saint-Pétersbourg, en mai 1921, on dénombre plus de 300 troupes qui sont ce qu'on appelle des troupes volantes. Elles vont de droite à gauche et puis elles s'occupent en fait de distiller en fait les idées révolutionnaires et voilà, de propager en fait le souffle de la révolution qui vient de naître en Russie.
Une partie de ces troupes déambule à travers les villes, se mêlant à la foule, tantôt utilisant des tréteaux préparés, tantôt jouant de plein pied, sur le trottoir, entouré d'un cercle de spectateurs. Une autre partie occupe des plateformes et des camions le plus souvent.
Bon, peut-être cette première partie de théâtre d'agitprop 17-21, c'est un peu c'est le moment qui correspond, si on replace dans le contexte historique, du communisme de guerre. Parce que ce qu'on sait très peu, en fait, dans les livres d'histoire, on nous dit que la guerre s'arrête en 18. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1918, effectivement, il y a un traité pour signer une armistice. Mais ce qui s'est passé, c'est que toutes les armées du monde ont continué la guerre, ont continué l'offensive et ont encerclé, en fait, la Russie. Et la guerre s'est finie qu'en 21, etc. Puisque donc l'armée rouge a dû faire face à une quantité incroyable de soldats et d'armées dans toutes ses frontières pour en fait arrêter l'hémorragie, stopper la révolution. Et tout l'effort de guerre était concentré en Russie. Ils devaient affronter une révolution c'est-à-dire l'expropriation des usines, faire marcher à la fois de quoi nourrir la population et toute cette transformation sociale et économique, culturelle. Et puis à la fois, en fait, supporter le poids d'un assaut incroyable d'armée mondiale qui venait, en fait, et qui avançait pour récupérer la Russie.
Mais ces armées, c'était pour récupérer la Russie ou c'était pour maintenir l'ordre établi et empêcher la révolution?
C'était ça, en fait, empêcher, en fait, reprendre le pouvoir, puisque. Enfin, empêcher cette prise du pouvoir par les ouvriers.
D'accord.
Et la propagande, l'agitation, ça faisait partie d'une arme, en fait, comme la baïonnette, comme les fusils, relancer la productivité pour que les gens puissent manger. C'était une arme pour, en fait, dire tenez bon, il faut qu'on tienne notre révolution, il faut qu'on défende notre révolution contre toutes ces attaques. Alors bon, en 21, la guerre est finie, et puis vient une autre période.
1927 à 1932.
La Renaissance.
Donc on a sauté la période juste après 1921-22, en fait, pour aller à la fin de notre période 1732, et pour, en fait, voir ce qui s'est passé. En fait, c'est deux périodes similaires, en fait. Le début 1721 et 1732, c'est un moment, en fait, où de nouveau il y a une explosion de spontanéité, et de nouveau il y a des cercles dramatiques d'usines, des brigades de choc qui sillonnent le pays, et puis il y a des sketchs qui se jouent des fois en même temps dans 1000 endroits différents. Donc c'est vrai qu'il y a une remontée fulgurante de cette forme artistique, mais très très vite le théâtre va se laisser instrumentaliser par le pouvoir bureaucratique, et c'est le prélude de son extinction. On en parlait tout à l'heure avec l'esthétique du réalisme socialisme qui avait été glorifiée, et qui avait été même plus que glorifiée. C'était le seul schéma possible en termes artistiques en Union soviétique. Et si on revient dans cette période de 1922 à 1926, c'est le moment de
L'insertion
professionnelle, en tout cas pour nombre d'artistes et de troupes, justement, qui étaient amateurs, non officiels, etc. Et qui, du coup, veulent se professionnaliser. Et en gros, c'est une période d'institutionnalisation dans l'appareil culturel. Il y a toujours cette volonté de transformation socialiste du mode de vie, mais avec des ambitions un peu plus professionnelles et l'apparition de troupes un peu plus structurées et organisées.
Modernité.
Agitation.
Éclatement de la forme.
Cirque.
Tradition populaire.
Cœur.
Découpage.
Constructivisme.
Cœur chanté.
De la
expressionnisme.
Forme.
Amateur.
Variété.
Pantomime. Journal vivant.
Cabaret
jonglerie.
Rouge.
Jonglerie.
Agitation.
Battelage.
Journal
variété.
Vivant.
Futurisme.
Cabaret rouge.
Remontage.
Constructivisme.
Agite propre.
Procès.
Avant-garde.
Journal vivant.
Revue politique.
Construction.
Expressionnisme.
Pantomime.
Amateur.
Propagande.
Éclatement
Pantomime.
De la forme.
Cabaret
Battelage.
Rouge.
On va faire une nouvelle petite pause musicale. Écoutez Chostakovitch, encore une fois.
Thank you.
Écoutez, stop. Prolet-bühne agit-prop. Agit-prop. Contre la faim et la destitution. Agit-prop. Théâtre de révolution. Agit-prop. Éveille les masses au combat. Agit-prop. C'est la lumière des ouvriers. Agit-prop. Dans les rues et à la porte des usines. Agit-prop. Dans tous les États-Unis. Agit-prop. Et les patrons tremblent de peur. Agit-prop. Car le jour des ouvriers est proche. Agit-prop. Contre les socialistes jaunes. Agit-prop. Contre les prédicateurs et les fascistes. Agit-prop. Contre la terreur policière et l'exploitation. Agit-prop. Contre la presse mensongère et la famine. Agit-prop, c'est le grondement du canon. Agit-prop, c'est la guerre des classes. Agit-prop, apporte le bruit de la bataille. Agitprop, construis le front révolutionnaire. Agitprop, frappe la main d'acier du patron. Agitprop, défend l'Union soviétique, la patrie des ouvriers. Les nouvelles des ouvriers, les opinions des ouvriers, protestation des masses, guerre des classes, fort, inflexible, maniant la victoire, du rythme, de l'action, au combat, réaction, dans la rue et les shops, nous ne ferons jamais stop. Agitprop!
Alors les pièces d'agitation ou agitki, elles se définissent comme devant être centrées sur un problème particulier. Donc bien souvent, c'est des formes très très courtes et qui traitent de un sujet. Donc par exemple, il y a des pièces, elles sont centrées uniquement sur la question de l'hygiène et donc qu'il faudrait voilà faire gaffe voilà aux microbes, se laver les mains. Apprendre à se méfier de boire de l'eau qui véhicule le choléra, les maladies, etc. Il y a d'autres pièces en fait où c'est centré sur les rapports hommes-femmes et sur le travail domestique. D'autres pièces, c'est pour réclamer la baisse du temps de travail. Il y a des pièces, le sujet, c'est les rapports ville-campagne avec la nécessité pour les campagnes, de donner à manger aux ouvriers qui travaillent, etc. Donc c'est vraiment des petites pièces très didactiques, très courtes, très simples, qui se concentrent sur voilà, en fait, très très peu de problématiques et qui sont encore une fois jouées par des amateurs partout où c'est besoin.
Par les gens, pour les gens, c'est les vrais gens.
On peut un peu distinguer la forme de ce théâtre. La première des particularités, c'est de détruire le drame. Qu'est-ce qu'est le, enfin, la forme drame, c'est surtout la question du naturalisme et de ce théâtre psychologique où les acteurs ont des rôles de personnages bien définis. Et en fait, on l'a lu en fait en parcourant très très rapidement les petites pièces. Il y a beaucoup de pièces qui sont écrites où les personnages sont le 1er mai, où les personnages sont
pauvreté,
la pauvreté,
richesse,
ouais.
Des allégories.
En fait, c'est effectivement des allégories où en fait on a du mal en fait à saisir, mais c'est c'est tout, enfin c'est casser en fait cette forme avec des personnages bien définis.
Mais est-ce qu'il y a une association du drame à l'art bourgeois en fait qui était décrit dans le manifeste du début de l'émission, non, c'est ça?
Ça se définit vraiment en opposition à toute une série de codes traditionnels. Et puis, c'est surtout l'apparition sur les scènes de l'art, sur les planches, de la classe des travailleurs, la classe des opprimés. Mais sans plus attendre, je vous propose qu'on lise une pièce de Jean Darval, qui était une pièce qui a été écrite en 1931 et qui fait partie d'un recueil de pièces qui étaient jouées par la scène ouvrière, qui était donc en France un peu le pendant de ce qu'on pouvait découvrir et connaître en fait en Russie. Donc cette pièce, elle est en un tableau et s'appelle « Démocratie, tu n'es qu'un mot ». Une rue dans un quartier ouvrier. Au premier plan, sur la gauche, un banc public. Sur un pan de mur à droite, on aperçoit une affiche en couleur. Entre deux gamins, âgés d'environ 13 ans, se rendant à l'école. Costume d'écolier, gibecière en bandoulière. Personnage. Premier garçon, Jean. Deuxième garçon, Henri. Le passant, un mutilé, un apprenti, trois commères, deux ouvriers, deux agents. Jean.
T'as appris tes leçons, Henri?
Oui, je suis en train de relire ma leçon d'histoire.
Elle est cotard, hein?
Ah oui, alors. Tiens, je vais m'installer sur ce banc pour lire tranquillement.
Nous avons le temps, encore un quart d'heure.
Ils s'assoient tous les deux.
Tu le sais par cœur, cette leçon?
Ouais.
Ben, récite-la alors.
Déclaration des droits du citoyen et de l'homme.
Non, non. Des droits de l'homme et du citoyen.
C'est la même chose.
Non, puisque c'est le contraire.
Tu crois? enfin, si c'est écrit comme ça, je veux bien, moi. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent et demeurent libres. Libres. Ah, je m'en souviens plus.
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Toutes les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit.
Pendant ces dernières répliques, plusieurs personnes traversent la scène et un passant s'arrête derrière le banc. Henri continuant.
Toutes les distinctions sociales ne peuvent être fondées que...
Ah, mes enfants, vous apprenez là de bien belles choses. Quel dommage qu'elles ne correspondent pas avec la réalité. Tous les hommes naissent et demeurent égaux.
Mais c'est pourtant comme ça que c'est écrit, madame.
Eh oui, seulement il y a beaucoup de choses qui sont écrites et qui sont des mensonges.
Mais pourquoi ? Papa me disait hier soir qu'il ne fallait jamais mentir.
Ton père avait raison, mon petit. Cependant, apprends que certains mensonges sont nécessaires pour maintenir les hommes dans l'erreur et dans l'ignorance. La liberté et l'égalité dont parlent vos livres sont deux de ces mensonges.
Alors, il faut croire les livres ?
Chic, je n'apprends plus mes leçons.
Ah, si, il faut apprendre au contraire. Mais il faut surtout apprendre en regardant autour de vous.
Comment il faut faire ça, madame ?
Bah, tenez. Bon, voyez cet auto qui passe là-bas. Eh bien, celui qui se prélasse à l'intérieur est ce qu'on appelle un bourgeois.
Un aveugle traverse la Seine, conduit par un enfant. Le passant regarde autour de lui.
Bah, vous connaissez le père Ernest qui passe avec son fils. Il a laissé à la guerre ses deux yeux. Il mène une existence misérable dans la nuit qu'il ne le quittera jamais plus.
À la maison, tout le monde, papa et mes frères, disent comme vous, madame.
Bah, les ouvriers savent ces choses, oui mon garçon. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que des millions d'hommes sont morts et que beaucoup d'autres ont souffert dans leur chair pour cet homme que vous avez vu passer en auto.
C'est un méchant ce monsieur alors ?
Bah, c'est un bourgeois, et comme tous ses pareils, il fait la guerre avec la peau des autres et s'enrichit pendant ce temps-là. Voilà une des libertés qu'on laisse aux ouvriers, celle de se faire tuer ou mutiler sur les champs de bataille.
Dans nos livres, c'est pas raconté comme ça les guerres.
Non, mais vous devez savoir la vérité. Quant à l'égalité, c'est la même chose. Dans votre école, il y a des enfants pauvres, mal vêtus, mal chaussés. D'autres sont au contraire richement habillés et ne manquent de rien.
C'est vrai.
Pendant que les enfants de riches poursuivent leurs études très tard, souvent le fils de l'ouvrier doit quitter l'école avant d'achever les siennes.
Ah, c'est pourtant vrai, regarde Victor, à 12 ans il travaille déjà.
Ah, tu le vois. C'est pour cela que vos livres disent des mensonges, parce qu'il y a des riches et des pauvres. Ouais, au revoir mes enfants.
Ils s'éloignent. Jean répète sans conviction.
Les hommes naissent et demeurent, etc. Je n'ai plus d'entrain pour réciter ça.
Et moi non plus. Bon, un autre passage maintenant. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui.
La dame est partie, c'est dommage. Voilà une chose qui paraît juste, hein, Victor ?
Il s'adresse à un apprenti qui vient d'entrer sur la scène et qui lui a serré la main. Bonjour, ça va ?
Bonjour.
Je sais pas ce que ça veut dire ton truc. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que depuis que je travaille, je la connais pas beaucoup, la liberté.
Ah, pourtant, hier, on a appris une récitation disant que le travail, c'est la liberté.
C'est ça, le travail, c'est la liberté. Ah. Tu crois encore à ces machines-là ? La liberté ? Tiens, regarde, moi, en fait, j'aurais voulu être dessinateur. Avec tous les frangins et les frangines à la maison, faut gagner de l'argent. Alors, voilà, on fait n'importe quoi. Je suis apprenti dans la mécanique, à 25 ronds de l'heure. Je pense pas que ça aurait nuit aux personnes que j'apprenne le métier qui me plaisait.
Bien sûr.
Et bah tous les copains sont logés à la même enseigne que moi. Là voilà ta liberté.
C'est peut-être pas la même ?
Probable. En tout cas, faut que je me sauve. Je suis partie en course et si je reste trop longtemps, gare au Torgnol. Tu parles d'une liberté. Allez, au revoir les gars.
Pauvre Victor.
Bon. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. La loi est l'expression de la volonté générale, tous les citoyens étant égaux à ses yeux. La loi est l'expression de la volonté.
On entend un tumulte dans les coulisses, puis les cris. Lâchez-le ! Lâchez-le ! Assassin ! Assassin ! Puis paraissent deux flics, traînant brutalement un homme. La foule les suit. Deux ouvriers restent sur la scène et discutent avec animation.
Premier ouvrier.
Qu'a-t-il donc fait ?
première commère, voix criarde.
Ah, si c'est pas malheureux de le traîner comme ça. Allez, brute. Vous savez pas, mon beau monsieur. Eh ben voilà, cet homme avait faim, ça se voit dans ses yeux brillants de fièvre.
Deuxième commère.
Pas pour sûr, hein.
Première commère.
Alors, en passant devant la boutique du père Léon, le fruitier, il a pris une banane. Aussi vrai que je vous vois, madame Mathieu. Ah, les brutes.
Deuxième commère.
Oh, pensez-vous, madame Philippe, ce titre-là me fait plutôt l'effet d'un satyre.
Première commère.
Mais non, c'est pas ça. C'est, paraît-il, un communiste qui distribuait des bouts de papier. C'est le concierge du cinquième qui me l'a dit. Il s'y connaît dans la politique, vous savez.
Deuxième ouvrier.
Vous vous trompez. Cet homme n'est ni un mendiant, ni un satyre. C'est un ouvrier de l'usine des moteurs, actuellement en grève. Il a dû avoir des démêlés avec la police, pour ça. Et vous avez vu comment on l'a traité ?
Premier ouvrier.
Nous subissons le règne du flic roi.
Deuxième ouvrier.
Le règne du flic roi.
Des commères, en chœur.
Quelle drôle d'époque !
Premier ouvrier. Les deux ouvriers restés en scène, les commères sortent, les deux ouvriers restés en scène vont lire l'affiche placardée au mur, le calme est revenu. Le premier ouvrier lisant l'affiche.
Ah les bandits ! Mettre un homme en prison pour avoir crié à bas la guerre.
C'est la répression, camarade.
Dépêchons-nous maintenant, il va être l'heure.
Récite la suite, Henri.
Henri cherche dans son livre pendant que les deux ouvriers viennent sur le devant de la scène. Ils paraissent indignés. Il faut faire quelque chose pour délivrer notre camarade.
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Ce n'est pourtant pas ce qu'on vient de voir.
Ah non alors. Le monsieur de tout à l'heure a raison. Les livres ne disent pas toujours la vérité. Nul homme ne doit être inquiété pour ses opinions. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement.
T'entends ce que l'on apprend aux enfants ?
Quel scandale ! Je n'avais jamais réfléchi à ça. On apprend à nos gosses les grandes tirades sur l'égalité, la liberté, la fraternité. Et on met les communistes en prison parce qu'on agit contre la guerre.
La libre communication des pensées...
Bon, mes petits, nous vous écoutons depuis un instant. Voulez-vous prendre une bonne leçon de choses pour illustrer votre cours d'histoire ?
T'as raison, montre-leur ce qui se cache derrière les grands mots avec lesquels on nous a bourré le crâne à nous aussi.
Bah, c'est facile. Il y a une chose dont on ne parle jamais dans vos livres, c'est la lutte des classes qui oppose l'ouvrier au patron, au gouvernement, à tout le régime. Bon, voici un exemple des méfaits de la démocratie. Mon camarade,
il monte le premier ouvrier,
est actuellement au chômage. Il lui est impossible de trouver du travail.
Il y a des millions de chômeurs comme moi.
La liberté pour les ouvriers, c'est la liberté de crever de faim après avoir contribué à la richesse de nos patrons et de tous les profiteurs du régime.
Oh, pas tout à fait juste, un camarade. Je touche 6 francs 50 par jour d'indemnité de chômage.
Et une misère, une insulte à la misère.
Mais alors pourquoi les ouvriers sont-ils si malheureux ? Tout à l'heure, un passant nous a dit que c'était les ouvriers qui faisaient la guerre pour les riches.
Il avait raison. Je vais vous démontrer toute la fausseté de l'enseignement que l'on vous donne à l'école. Bon, on a le cynisme de vous apprendre que la liberté d'opinion est un droit sacré pour l'homme.
La prison ! Voilà la liberté des ouvriers.
Cette affiche concerne un grand militant communiste. Lisez, lisez mes petits, cette éducation-là vaut bien celle de l'école.
Appel à la classe ouvrière. Un vaillant militant est actuellement en prison. Son crime ? Avoir protesté contre la guerre qui revient. Oui, de toutes ses forces, face à la bourgeoisie, il a crié la volonté de paix de tous les travailleurs. Avec notre parti, il a déclaré que la classe ouvrière n'accepterait plus de faire la guerre aux prolétaires des autres pays, frères de misère des prolétaires d'ici. Et si la bourgeoisie voulait déclencher un nouveau conflit, le devoir de tous les travailleurs dans tous les pays serait de transformer, suivant le mot d'ordre de Lénine, cette guerre en une révolution pour libérer tous les opprimés du monde. À bas la guerre impérialiste, vive les soviets, vive la révolution mondiale, le parti communiste, les jeunesses communistes.
Bah, cet emprisonnement de notre camarade a lieu au nom de la liberté de parole et de pensée dont on parle dans votre livre d'histoire.
Hypocrisie.
Mais pourquoi ces injustices, monsieur ?
Bah, quand on prépare un mauvais coup, on n'aime pas être surpris.
Mais si on met en prison quelqu'un qui n'a rien fait, ce n'est plus la loi, ça.
Bah, c'est justement ce que je voulais vous démontrer.
Deux agents sont venus sur la scène depuis un moment et ont entendu la fin de la lecture de l'affiche et les dernières tirades.
Qu'est-ce que vous faites avec ces enfants? D'abord cette affiche, nous allons la déchirer.
Ça jamais! Quant aux enfants, je les connais et j'ai bien le droit de leur montrer comment on leur bourre le crâne à l'école.
De la rébellion!
Chef, on l'arrête?
De quel droit? C'est scandaleux! C'est ça votre république!
Vous là, pas de propos subversifs! Sinon gare à vous!
Camarade, je cours à la permanence de ton parti au comité de chômeurs.
Il sort en courant, on entend sonner la cloche de l'école.
Allez mes enfants, partez à l'école et surtout retenez bien les enseignements réels, ceux-là que la vie vient de vous donner.
Les enfants sortent en disant au revoir à l'ouvrier et en lui serrant la main sous l'œil stupéfait des agents.
Sale graine de bolchevique, va !
Allez, oust, au poste.
Je proteste !
On s'en fout !
Le bloc, c'est le repos pour les communistes !
Bruit de pas précipité dans la coulisse, bruit de voix qui se rapproche et conduit par le premier ouvrier, apparaissent une quinzaine d'ouvriers.
Salut, camarades !
Voyez-vous, ils allaient l'arrêter ! Vous ne l'avez pas encore !
Le groupe s'approche des agents.
Qu'est-ce que c'est ?
Vous ne l'arrêterez pas ! Non !
On s'en va ?
Bien sûr qu'on s'en va. Et vous là, pas d'histoire, hein. On vous le laisse, votre bolchevique.
Ouh, bravo ! Ils ont eu peur ! Ils reculent !
Devant la force ouvrière, vous êtes obligés de céder.
Le groupe d'ouvriers se resserre, menaçant autour des agents.
Pas d'histoire, nous partons.
Camarades, laissez-les passer. Nous vous avons montré notre force, c'est assez pour aujourd'hui.
Le groupe laisse passer les deux agents en acclamant le deuxième ouvrier. Bravo camarades, bravo, les agents sortent.
Quel bel exemple de solidarité et de l'action ouvrière. Camarades, tu dois tirer la leçon de cet incident et venir dans nos rangs.
Entendu, je suis des vôtres à partir d'aujourd'hui.
Bravo ! Ouais, vive l'action ouvrière !
Ouais, à bas la répression !
À bas la répression ! Nous devons maintenant nous mettre à l'œuvre pour délivrer tous nos camarades emprisonnés. C'est ainsi que nous lutterons contre le régime capitaliste et la guerre.
À bas la guerre !
Vive la révolution prolétarienne ! Ouais !
Wouhou ! Rideau.
chronique paysagère mise en abîme aujourd'hui de l'impossibilité d'une création individuelle au service d'une œuvre collective. C'est extrait d'un texte récent qui s'appelle « Au trouble ». Ce qu'on appelle l'ambition, je ne sais pas quoi en faire. Je sais qu'elle ne s'accorde pas avec la lenteur. Et moi, je n'ai jamais espéré arriver quelque part, même en amitié. L'amitié est encore une eau sale. Tandis qu'en amour, on farcit le pigeon, on le farcit de douceur, mais quand on inspecte les entrailles, du carbone, trop cuit. J'avais offert ce dont je ne disposais pas à quelqu'un qui n'en voulait pas. Définition de celui qui est de son temps. Je ne suis que ce qui me manque. Mon œil est un sexe. Mes angoisses sécrètent ma vision du monde. Quelle est la nature d'un soldat, sa vocation ? Entretenir l'économie au prix de sa peau. Il faut interdire aux artistes de sucer des dragées. La mort, c'est du passé. Mais surtout dans le civil, anonymat. Sinon, on en revient à désigner des persécuteurs. Le lecteur n'a pas à se croire plus malin en s'inventant des critiques auxquelles il ne souscrit pas. Un avenir bien compris est celui que l'on crée. Raisonner sur l'avenir s'apparente à un crime. Cela revient à entraver le mouvement destructeur et à démoraliser ceux qui œuvrent. On plante un grillage autour de nos peurs. Les serpents se font serpentins. Pourquoi hésiter à jeter du verre pilé dans les baignoires en émail et dénoncer ce qu'on nous vend pour le bonheur, alors que tant de gens n'ont personne sur qui se déverser? Commençons par ne pas jeter l'imagination par les fenêtres. Aimer la justice, autre expression vide de sens. La justice est sans entrailles, sensible comme une balance. Le justicier pèse les choses en épicier. Il ignore la légèreté et le troc, ce qui fait le charme de l'échange. Pas plus important qu'un planificateur. Son talent est de semer la mesure de toute vie, représentant en solitude. Ceux qui l'écoutent cèdent à l'oppression. Les signes se font salive. L'inventeur de la dynamite, dans sa joie, créa le prix Nobel. Le chef-d'œuvre est une impasse. Il n'est plus dans l'être là. Il se célèbre tout seul. Jésus, arrête de te plaindre, on en oublie les larrons. Et les sociétaires d'applaudir pour que l'industriel passe son tour. Il se trouve encore toutefois des nobliaux ridicules qui racontent ce qu'ils furent lorsqu'on leur demande ce qu'ils font. Comment dès lors incriminer l'indifférence quand l'ennui est devenu si naturel? Ces gens altèrent les mots et les formes au point de les rendre inutilisables ou caduques. Ne reste que la déviance pour répondre à la défiance. Le rock'n'roll n'a pas tué la civilisation occidentale et chrétienne. On ne sait pas assez remuer les fesses. La génération qui libérait son sexe n'est pas venue à bout des dogmatismes. Un mur est fait pour tenir debout. Son utilité est secondaire. Un bon mur tient debout, c'est tout. La question de ce qu'il enferme vient après la libération. Si je souhaite un partenaire pour accomplir une mission, je préfère quelqu'un de déjà occupé. Sinon, la paranoïa guette. Sorte d'amour négatif pour la chose à faire. C'est dans l'action qu'on est intellectuel, pas dans la projection. Petit, je montais dans les arbres pour observer les nids. Je cherchais à desserrer l'étau de la sévérité, à lâcher prise en m'intéressant à un domaine détaché de la morale, les oiseaux et les plantes. Chez les hommes, j'étais frappé par les défauts et les imperfections. Je ne m'étais pas encore initié à la critique de la beauté. Le mot même de qualité me gênait. Et qu'en était-il de moi ? L'allégorie de la paille et de la poutre me paralysait davantage que le vain débat de l'œuf et de la poule. Ce qu'on découvre ne découle que d'un hasard bien préparé. N'écoute pas les ragots, d'accord ? N'écoute pas les ragots, mais s'il s'avérait événement historique demain ? Après les oiseaux, observer les hommes dans leurs activités quotidiennes devint une passion. Observer sans l'être moi-même. Tel est mon exhibitionnisme. J'appris que la planète résultait d'une décadence, d'une décomposition d'éléments primordiaux. Des astres sont morts et la vie est apparue. Des croûtes ont recouvert le feu et nous voilà, accompagnant la vermine et le métal venu des astres. Depuis, le propre d'une science humaine ou d'une philosophie est d'être impuissante. Tout l'attrait est là, y compris pour les gens, chaotiques, imparfaits. J'ai trouvé ici matière à qualité, des défauts selon le manuel scolaire. Honte à qui sa limite suffit, clamait Aragon. Il reprendra sa mise, déclinera le défi. Mourir satisfait. Que pense et qu'espère la tortue sortie de l'œuf et crapahutant vers les flots? Y en a-t-il qui tentent une expérience terrestre? Pourquoi s'acharne-t-on contre le déterminisme mécanique? L'homme tire-t-il sa fierté de tourner le dos à son instinct, à sa pulsion? Autosuffisance, le mot est frais. Et il est laid. Caïn aurait dû tuer Dieu, le grand humiliateur. Il s'en est pris à son frère qu'il avait sous la main. L'espace ne nous appartient pas. De plus, lui repousse sans cesse ses limites. Si je ne donne rien, jette-moi comme une vieille pelure. On s'accroche à des bibelots inutiles qui briment l'imagination au lieu de la nourrir. Aimer sans violer, tel est le défi. On écrit par-dessus d'autres couches de symboles, on rature les antécédents, l'ancienne prose, on blanchit le support jusqu'au virtuel de son propre apport. Du coup, on s'épargne le repentir. J'ai connu une institutrice qui gâtait les élèves les plus pauvres, la couche profonde. Je crois qu'elle avait personnalisé l'école républicaine. L'addition des pauvretés ne rapporte pas la richesse. La curiosité est la seule chose qui fait sortir du rang, qui autorise à croire que notre condition ne sera pas éternelle. Mais l'école a-t-elle pour vocation de sortir chacun du rang? Le pêcheur à la mouche accroche une étoile de mer. A-t-il perdu son temps? Tout travail spirituel porte ses fruits sur les muscles, sur la capacité physique d'extraction. Il faut tout de même en venir tôt ou tard à l'hypothèse que l'état serait une erreur de jeunesse, qu'on s'épuise à rectifier. L'isolement de l'individu vient des perspectives restreintes de la collectivité. D'où vient la crainte d'exprimer une idée fausse, du moment qu'on la prononce d'un cœur vaillant? Souvent, l'erreur est due au fait que la cible est mouvante ou que, dans l'obsession de se démarquer, on détourne les yeux de ce qu'on nous indique. Si, à l'instar d'Alfred Jarry, je définis la circonférence comme un polygone d'une infinité de côtés, quelles en seront les conséquences? On ne pliera plus le cercle selon ses courbes comme un linge qui retrouve naturellement sa position dans le placard. L'aveugle sait mieux que quiconque à quel point la lumière est crédule. Le fugitif retombe-t-il à tous les coups dans l'histoire? Attention à son sourire, s'il se retourne sur vous au moment où vous alliez l'interpeller pour en avoir le cœur net. Le peintre ne couche jamais dans son tableau, sauf peut-être l'idéaliste qui se prend pour son portrait. Il arrive que l'on ait fixé si haut la barre qu'on devient supérieur à l'idée même de projet. Et c'est ainsi qu'on abîme tout ce qui n'est pas soi.
Merci Combor pour cette chronique paysagère, cette mise en abîme sur l'émission d'aujourd'hui qui était une émission sur le théâtre d'agit-prop de 1917 à 1932. La semaine prochaine, on reviendra sur cette période puisqu'aujourd'hui, on n'a fait que brosser un petit peu ce que c'était que ce théâtre et on va se concentrer sur plus une période en particulier. Voilà, pour écouter l'émission, vous pouvez aller sur le site internet de la compagnie lesmonturesdutemps.fr et en attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir tout le monde.
Au revoir, merci.
Au revoir.
Je suis pas musicienne, je pourrais pas te faire un bon jingle.